Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition consacrée à l'Inde, où le Premier ministre Narendra Modi vient de décrocher sans difficulté un nouveau mandat. Son parti de la droite fondamentaliste hindoue, le BJP, a remporté 300 sièges aux législatives. Au total, la droite unie sous la bannière de l'Alliance démocratique nationale envoie 347 députés sur 543 au Parlement. Plus de 900 millions d'électeurs étaient appelés à participer au scrutin. La victoire est historique. Jamais la droite hindoue n'avait obtenu un second mandat d'affilée. Comment expliquer ce succès de Narendra Modi et des nationalistes hindous qui étaient opposés à Rahul Gandhi, le dirigeant du parti du Congrès? Analyse et regard sur les défis qui attendent l'Inde, dont la population devrait dépasser la population chinoise durant la prochaine législature et devancer, selon les économistes, le Royaume-Uni en tant que cinquième économie mondiale. Nos invités, Isabelle Saint-Mézard, maître de conférences en géopolitique de l'Asie à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8, chercheur associé à l'IFRI. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS et membre d'Asia Centre. Bonjour.
Bonjour.
Christophe Jaffrelot, chercheur au CERI Sciences Po CNRS, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, L'Inde de Modi, national populisme et démocratie ethnique, aux éditions Fayard. Bonjour.
Bonjour.
Et Patrick de Jacquelot, ancien correspondant en Inde des Échos et journaliste chez asialiste.com. Bonjour.
Bonjour.
Le BJP a donc remporté une victoire écrasante. Narendra Modi confirme sa stature d'homme fort du pays. La victoire était pressentie, mais la vague qui balaye le pays un peu moins. Que faut-il y voir? Un succès pour le parti ou un succès pour Narendra Modi? Et toute première réflexion, sans doute, cette victoire est un peu une surprise, là où le chef du gouvernement semblait un peu fragilisé par des résultats économiques, en raison notamment d'un chômage particulièrement élevé, 6,1% de la population, même si les chiffres en Inde, chiffres économiques sont toujours sujets à caution, du jamais vu en tout cas depuis plusieurs décennies, et une croissance sous la barre des 7%. Alors comment expliquer ce succès? Comment expliquer cette montée en puissance de Narendra Modi? Christophe Jaffrelot.
Ah, je pense qu'on peut l'expliquer de très nombreuses façons. D'abord par le fait, comme vous le soulignez, qu'on n'a pas eu à traiter du bilan économique de Modi pendant cette campagne. Et c'est ce qui a été le plus surprenant en vérité, c'est que l'économie n'est pas au mieux de sa forme, loin de là, on y reviendra, mais il n'en a pas été question et aucune des politiques publiques qui avaient été lancées par Narendra Modi n'a fait l'objet d'un bilan. De ce qu'on pourrait considérer comme la loi dans une démocratie, qu'a-t-on fait en 5 ans? Non, il n'a pas été question de ça, il était question de questions beaucoup plus identitaires. Les deux thèmes qui ont dominé cette campagne, ça a été la sécurité nationale, suite notamment aux attentats de Pulwama et aux frappes aériennes qui ont suivi et qui ont atteint le Pakistan.
En février dernier.
Et puis, il a été beaucoup question aussi d'hindouïté. Et beaucoup plus d'ailleurs dans la bouche de Modi qu'en 2014. 2014, il avait remporté les élections justement sur un agenda qui était très économique, très tourné vers le développement. 2019, l'économie n'ayant pas donné les résultats escomptés, il se replie sur ce qui est le fondamental du nationalisme hindou. Et c'est pourquoi d'ailleurs on voit des éléments dans cette campagne tout à fait étonnants. Ce qu'on appelait des marginaux, des extrémistes d'un mouvement qui est déjà lui-même assez extrémiste, devenir mainstream en un sens. Par exemple, à Bhopal, on voit élu une personne qui a été arrêtée, qui est encore d'ailleurs sous le coup d'une inculpation pour terrorisme et qui a fait une campagne au vitriol, présentant Nathuram Godse, l'assassin du Mahatma Gandhi, comme un patriote. Et c'est sur ce genre de thème, très identitaire donc, qu'a roulé la campagne.
On reviendra bien sûr sur ces deux éléments que vous évoquiez à l'instant, Christophe Jaffrelot, la question sécuritaire et puis l'hindouïté. Isabelle Saint-Mézard, vous partagez?
Oui, bien sûr. Alors, je reviendrai peut-être sur l'importance de l'impact de la crise du début 2019, qui a quand même provoqué un effet d'opportunité pour Narendra Modi, parce que il a pu se présenter en grand protecteur de la nation. Comme on l'a dit, il a pu exploiter le thème de la sécurité.
Alors, juste quelques éléments pour replacer le contexte, Isabelle Zamézard, pardon, je vous interromps, mais
oui,
c'est important,
pardon,
pour nos auditeurs.
Donc, ça commence, c'est une crise grave, voire très grave, qui commence avec des attentats terroristes, suicides, à Pulwama, donc dans le Cachemire, sous contrôle indien, contre un bus de paramilitaires. 44 morts, ce sont des attentats terribles, qui sont effectués par un homme qui a la citoyenneté indienne, mais revendiqués par un groupe terroriste d'origine pakistanaise, bien connu, le Jaïch et Mohamed. Suite à ces attentats, le gouvernement Modi décide d'opérer non pas seulement des raids ou des tirs d'artillerie, mais quelque chose de différent, c'est-à-dire des frappes aériennes, premier élément. Et deuxième élément, non pas juste de l'autre côté de la ligne de contrôle, côté Azad Cachemire ou proche, plutôt au cœur du territoire pakistanais. Donc ce sont deux éléments nouveaux. Et là-dessus, le gouvernement va pouvoir dire, voilà, nous, on prend enfin des mesures punitives, des vraies, des fortes, des méchantes, si je puis dire, contre le terrorisme d'origine pakistanaise. Donc ça va déclencher, d'une part, il y a le traumatisme de ces attentats, il est vrai, très choquant, mais enfin, il y a cette idée qu'on a un gouvernement qui ose prendre des mesures fortes, punitives, contre le Pakistan, qui est toujours accusé de protéger les terroristes. Et donc, ça a enclenché comme ça une vague, d'une part anti-pakistanaise, de fierté nationale, et puis anti-pakistanaise qui peut facilement se confondre avec anti-minorité musulmane. Donc, on retombe quand même sur des fondamentaux du nationalisme hindou. C'est en ce sens, pardon, que je parlais des faits d'opportunité.
Alors, oui, effectivement, faits d'opportunité. La question qui se pose, mais avec des si, c'est toujours très compliqué. Ces événements sont produits en février. Les élections législatives ont duré plusieurs semaines. Effectivement, l'Inde n'aurait pas été en campagne électorale. Est-ce que Narendra Modi aurait décidé de ces frappes aériennes contre le Pakistan? La question reste posée. En la posant, on a peut-être un élément de réponse également, je ne sais pas. En tout cas, voilà, l'analyse de ces résultats et la victoire de Modi, donc c'est plus une victoire. Alors, peut-être je pose la question comme ça. Est-ce que sans Modi, le BJP aurait perdu ou n'aurait pas eu la victoire qu'il a eue à ce scrutin, Jean-Luc Racine?
Bon, c'est à peu près incontestable que ces élections législatives ont en fait été une manière de référendum pour ou contre Modi. Donc, la figure du leader est absolument décisive. Mais, et je pense que c'est important, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Les sondages en début d'année disaient, bon, normalement, le BJP devrait arriver en tête, mais sûrement pas renouveler l'exploit de 2014 avec une majorité absolue à lui seul, indépendamment même de sa coalition. Et quand Amit Shah, le chef du parti, a annoncé plusieurs semaines avant la clôture du scrutin qu'ils allaient faire mieux que la dernière fois, on ne l'a pas pris au sérieux. Et en réalité, c'est ce qui s'est passé. Autrement dit, il y a assurément le facteur personnel du leader charismatique qu'est Narendra Modi, mais il ne faut pas que cela masque ce qu'a été... Et c'est un point qui ajoute aux différences entre le BJP et le Parti du Congrès. Ces résultats n'auraient pas été ce qu'ils ont été sans un travail de fond mené par le parti depuis des années, dans toutes les circonscriptions de l'Inde. Et le travail de fond, c'est pas simplement jouer de l'idéologie, c'est... rénover le parti, c'est dans les stratégies électorales s'ajuster aux réalités locales, c'est dans tel ou tel état décider que quasiment aucun député sortant du parti ne sera candidat de nouveau pour faire monter une nouvelle génération. C'est-à-dire que il y a un vrai quadrillage de l'Inde d'aujourd'hui par le Bharatiya Janata Party qui double en quelque sorte le poids de cet organe fondamental qu'est l'Organisation des Serviteurs de la Nation, le RSS, fondé bien avant les partis politiques, puisque sa fondation remonte aux années 20, mais qui a aujourd'hui presque 60 000 cellules à travers le pays. Le nombre de ses membres a quasiment comme le nombre des membres du BJP. Hein. Le BJP dit aujourd'hui, nous sommes le plus grand parti du monde. on a davantage d'adhérents que le PC chinois. Mais je pense que l'ampleur du succès qui n'avait pas été prévue tient évidemment aussi à ce qu'a été l'échec des stratégies de l'opposition, mais tient aussi à cette dualité entre la figure emblématique du leader, sur laquelle il y aura beaucoup à dire, et le travail de fond mené par le parti et par ses militants, circonscription après circonscription.
Donc un quadrillage, hein, vous l'avez dit, Jean-Luc Racine, une capacité d'organisation du BJP aujourd'hui à l'échelle de l'Inde. Patrick de Jacquelot, vous n'avez pas encore eu la parole, je ne sais pas si vous souhaitez réagir à ce qui s'est dit jusqu'à présent. On parlera ensuite évidemment de l'échec du parti du Congrès qui ne décroche que 52 députés, 9 de plus qu'en 2014, mais voilà, c'est un échec de la famille Gandhi. Patrick de Jacquelot.
Oui, je voudrais juste revenir sur un point mentionné par Christophe Jaffrelot. Tout le monde s'attendait à ce que cette élection soit l'occasion de faire un bilan de l'action de Modi pendant les 5 premières années. On sait que la démonétisation, c'est-à-dire le retrait de 86% des billets de banque en circulation intervenu il y a 2 ans et demi, a été un désastre pour beaucoup, beaucoup de gens. Ça a porté un coup de frein à l'activité économique dans tout ce qui est l'économie informelle qui fait vivre 60-70% des Indiens. On sait également que le monde rural traverse une période très difficile, et le monde rural, c'est 700 millions d'Indiens. Donc, on s'attendait fort logiquement à ce qu'il y ait une sanction dans les urnes, et le fait est que pour avoir réussi à faire passer tous ces éléments-là en arrière-plan, le fait est que Modi et Shah ont manifesté une fois de plus leur virtuosité et leur maîtrise du discours politique qui a totalement écrasé le Congrès et le reste de l'opposition.
Christophe Jaffrelot.
Oui, juste pour revenir sur la question, est-ce Modi ou est-ce le BJP qui ont gagné ces élections ? C'est vraiment une question très intéressante. Le BJP remporte des élections nationales, perd les élections locales. Et depuis 6 mois, depuis même 1 an en fait, depuis les élections du Karnataka, le BJP ne réussit pas à remporter ni le Karnataka, ni le Madhya Pradesh, ni le Chhattisgarh, ni le Rajasthan, ni le Telangana. Et là, cette année, on vote au même moment pour des élections nationales et Modi remporte un scrutin haut la main, et on vote aussi pour des élections locales, et le BJP perd, ou en tout cas il n'arrive pas à gagner, ni en Orissa, ni en Andhra Pradesh. C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, l'électeur maintenant sait faire la distinction entre l'homme qu'il veut voir à la tête de son pays, et le parti qu'il veut voir à la tête de son État. Et cette espèce de découplage, eh bien, il n'augure pas nécessairement de façon très positive pour le BJP la suite des opérations, parce que il faut que le BJP reste un parti crédible au niveau des États. Il lui faut encore des leaders. Tous ceux que Modi a marginalisés pour éviter qu'il lui fasse de l'ombre peuvent faire défaut. Ça, c'est un facteur qui est très intéressant, et il faut quand même comprendre aussi que cette élection a été fondée sur un déversement d'argent sans précédent. Modi a réussi à saturer l'espace public indien en dépensant, si on en croit les premières estimations, 7 milliards de dollars. Le record était détenu par Obama avec 4 milliards de dollars. Là, on est sur quelque chose de totalement différent. Et rien que l'argent qui a été saisi en petites coupures par la commission électorale dans les semaines qui ont précédé le scrutin était 10 fois supérieur à ce qu'ils avaient saisi en 2014. On est sur un demi-milliard de dollars d'argent saisi en petites coupures. Ça, c'est très important quand même, parce que ça on comprend mieux la façon dont les médias ont été réduits au silence. Aucune question qui dérange, aucune conférence de presse, aucun débat contradictoire dans cette campagne. C'est du one-way traffic. C'est constamment un bombardement qui va dans le même sens. Et ça aide, évidemment, l'homme à construire sa stature.
One-way traffic, alors trafic à sens unique. Juste, là, je vais vous passer la parole, Isabelle Saint-Mézard. La question de la démonétisation dont parlait précédemment Patrick de Jacquelot, juste pour nos éditeurs, c'est vrai que la chose s'est faite très, très brutalement. C'était une façon de lutter contre la corruption. On y reviendra. Ce que je retiens de ce que... Alors, bon, je vois que Christophe Jaffrelot émet des doutes.
C'était pas la seule raison.
C'était pas la seule raison. Alors, peut-être on y reviendra, ce sera intéressant. Donc, on l'a bien compris, victoire au niveau national du BJP, en même temps, fragilisation de ce parti au sein des États eux-mêmes. Isabelle Saint-Mézard.
Ce que je voulais ajouter concernant la victoire alors du BJP, mais surtout aussi quand même de Narendra Modi, c'est l'importance des réseaux sociaux et de la capacité à quasiment saturé, l'espace numérique, cyber. Narendra Modi est passé maître en la matière. Il est parmi les dirigeants et les personnalités au monde qui a le plus grand nombre d'adhérents sur son compte Twitter, sur son
compte... Il bat le président américain Donald Trump.
Voilà, alors sur Twitter, je crois qu'il est après le pape François et je ne sais plus quel autre dirigeant. Mais bon, il est sur toutes ces grandes plateformes de réverbération massive d'une image et d'un message assez simple, en fait. Il est toujours parmi les premiers mondiaux. Et la campagne est aussi passé par ces réseaux-là, parce qu'en fait, en Inde, tout le monde a un petit téléphone portable et reçoit directement dans sa main, en fait, des messages à la gloire de Modi et aussi, quand il le faut, démolissant le Congrès. C'est à double sens, c'est-à-dire c'est glorification systématique du leader, parce que c'est quand même très centré, je crois, en l'occurrence, sur la personne de Modi, et essayant de démolir les personnes qui s'inscriraient en faux par rapport à la personne et à l'action du Premier ministre Modi.
Jean-Luc Racine.
Oui, je voudrais revenir sur un point qui a été évoqué à juste titre tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce de découplage entre le vote des électeurs dans les élections pour les assemblées des divers États indiens et pour les législatives. C'est pas nouveau. Ça existe depuis très longtemps, mais ce qui est important, c'est que ça redonne de l'espace aux partis régionaux, aussi bien les partis régionaux de l'opposition. Le troisième parti aujourd'hui, c'est le Dravidian Munnetra Kazhagam du Tamil Nadu, avec 23 députés. Le BJP a fait zéro au Tamil Nadu et il a fait zéro au Kerala. Et il a fait, sauf erreur, zéro en Andhra Pradesh. Donc l'Inde du Sud résiste en quelque sorte. Mais ce qui est important, c'est que même si le parti a à lui seul la majorité absolue, sa coalition, baptisée Alliance démocratique nationale, lui est absolument nécessaire pour gouverner en coalition des États. On le voit au Maharashtra, qui est un des États majeurs, et on a comme ça de multiples exemples. C'est vrai aussi pour le Nord-Est indien, qui est pour le parti une terre de conquête, le Bihar aussi. Donc, cette dualité donne des marges de manœuvre aux électeurs, mais pose aussi un problème décisif aux partis de l'opposition, et en particulier aux partis régionaux. Et là, on retombe sur une des questions essentielles de ce scrutin. Pourquoi l'opposition a-t-elle échoué à un tel niveau? Est-ce dû simplement, là encore, à la personne de Rahul Gandhi? Je ne crois pas. C'est dû aussi au fait que la multiplicité des forces politiques en Inde fait qu'il était impossible d'obtenir une coalition avant les élections, alors que les opposants optimistes considéraient qu'il y avait une chance de gagner et qu'après la défaite de Narendra Modi, on allait se mettre au travail pour construire une coalition. Le problème, c'est qu'une part de l'électorat a considéré que cette hypothèse était peu vraisemblable. L'électorat s'est rappelé que dans l'histoire de l'Inde, il y a eu par trois fois des coalitions fragiles qui chaque fois ont duré deux ans avec deux premiers ministres successifs. Donc un certain nombre de gens qui ne partagent pas forcément l'idéologie du BJP a joué la carte Modi en disant on lui donne une deuxième chance et puis avec lui on aura un gouvernement stable. Ce qui veut dire aussi, et j'en termine, que la diffusion du nationalisme hindou percole sans convaincre tout le monde, mais qu'elle n'est absolument pas un obstacle pour un certain nombre d'électeurs qui considèrent stabilité d'abord.
Alors, on poursuivra bien sûr dans la deuxième partie de l'émission, on reviendra sur l'échec du parti du Congrès. On abordera aussi la question de l'élection au Cachemire. Géopolitique, nous retrouvons nos invités Jean-Luc Racine, Isabelle Saint-Mézard, Patrick de Jacquelot et Christophe Jaffrelot. Après le journal, à tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique regard sur l'Inde et le succès de Narendra Modi aux élections législatives. Nous retrouvons nos invités Isabelle Saint-Mézard, maître de conférence en géopolitique de l'Asie à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8, également chercheur associé à l'IFRI. Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS et membre d'Asia Centre. Christophe Jaffrelo, chercheur aux séries Sciences Po CNRS, auteur de L'Inde de Modi, National Populisme et Démocratie Ethnique, paru aux éditions Fayard, et Patrick de Jaclot, ancien correspondant en Inde des Échos et journaliste chez asialiste.com. Nous avons évoqué dans la première partie de l'émission la victoire du BJP donc aux élections législatives et abordé un petit peu rapidement, et on va développer maintenant, l'échec du parti du Congrès. Jean-Luc Racine évoquait ce manque d'organisation au sein de l'opposition à Narendra Modi. La question qui sans doute se pose aujourd'hui, bon, déjà ce que l'on voit, c'est l'échec de la famille Gandhi. Je rappelle que le parti du Congrès ne décroche que 52 députés, 9 de plus qu'en 2014. Mais voilà, ça fait de ce parti un parti évidemment minoritaire. Est-ce que le parti du Congrès peut survivre à l'échec qu'il vient d'essuyer aux dernières élections législatives? Christophe Jaffrelot.
Survivre, certainement, ne serait-ce que parce que c'est le seul parti qui est à ce point représenté à travers tout le territoire indien. On l'a dit déjà, le BJP est absent du cône sud, pour faire une métaphore. L'Inde a été largement dominée dans le passé par un parti qui avait la capacité à couvrir tout son territoire. Le vrai défi pour l'opposition et pour le Congrès, c'est surtout de trouver un leader. Parce qu'une élection comme celle-ci nous montre une chose très claire. C'est que même si l'opposition avait été unie, ça n'aurait pas suffi. On ajoute les voix que les partis d'opposition ont remportées dans tous les États où ils n'étaient pas unis. Ils sont toujours derrière le BJP, dans toute la partie nord et ouest, ce qui est énorme. Donc ce qu'il faut, c'est un leader. Et c'est quelque chose que les électeurs ont bien compris. Il y a une telle présidentialisation de la vie politique indienne qu'aujourd'hui, l'électeur, il veut savoir qui va gouverner, qui va être le Premier ministre. Et donc, il y a une prime à la personnalisation du pouvoir, mais qu'on retrouve partout. Il a fallu des années à l'opposition israélienne pour enfin comprendre qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un contre Netanyahou. Il a fallu des années à l'opposition turque pour comprendre qu'il fallait quelqu'un contre Erdogan. Dans ces nouvelles configurations que les nationales populistes installent partout, il faut un chef. Et c'est là le vrai défi. Parce que s'unir, à la limite, on peut se partager les circonscriptions et avoir un seul candidat contre le BJP, mais réussir à dégager une personne qui sera le leader, déjà au sein du Congrès, ensuite au sein de l'opposition, ça va prendre des années.
Patrick de Jaclot.
Oui, alors avec Rahul Gandhi comme leader du Congrès, le Congrès est effectivement très très mal parti, parce qu'on sait bien, pour le voir depuis 10 ans, que Rahul Gandhi n'est leader du Congrès que parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il est le fils aîné, et qu'il est un peu le prince Charles, mais avec la différence que le prince Charles a toujours rêvé de devenir roi d'Angleterre, alors que Rahul Gandhi n'a qu'un rêve, c'est de ne pas faire de politique. Donc là, en ce moment, on est dans une situation extraordinaire, où Rahul Gandhi a offert sa démission de leader du Congrès, qui a été refusée évidemment par les instances suprêmes du parti, et lui continue à dire « mais si, je démissionne ». Donc on ne sait même plus qui va diriger le Congrès dans les jours et semaines qui viennent.
Isabelle Saint-Mézard.
Oui, en fait, il y a comme une double ou triple tension à laquelle le Congrès est confronté, parce que d'un côté, comme vient de le dire Christophe, il y a un besoin de chef charismatique en raison de cette tendance à la présidentialisation des élections. Ça, c'est le premier élément. Mais deuxième élément, on reproche constamment au Congrès de ne pas parvenir à s'émanciper du phénomène dynastique et de rester prisonnier de la dynastie des Nehru-Gandhi. Donc, il y a quelque part des leaders évidents qui seraient les Nehru-Gandhi, mais finalement, c'est plus eux qui font l'affaire. Donc, il faut d'une part faire le deuil de cette dynastie fondatrice pour en plus retrouver un leader derrière. Donc, vous voyez, il y a au moins deux tensions ou deux défis à surmonter pour le Congrès. Le psychodrame actuel autour de Rahul Gandhi en dit effectivement long. Je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que Rahul Gandhi a quand même beaucoup progressé, a beaucoup donné de sa personne. L'histoire est un peu injuste avec lui. Au contraire, c'est un homme qui, effectivement, a pu paraître pendant longtemps le fils né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Mais il a donné de sa personne, il a fait beaucoup d'efforts.
Bah, il est plein de bonne volonté, mais il n'est pas à la hauteur quand même.
Après, être à la hauteur face au rouleau compresseur médiatique idéologico, je ne sais quoi, de Narendra Modi.
On aurait aimé un débat contradictoire entre Rahul Gandhi et Narendra Modi. On aurait peut-être
pas
vu
ce débat contradictoire. Jean-Luc Racine, un commentaire.
Oui, moi, je voudrais souligner quelque chose sur ce qu'est la force qui reste du Parti du Congrès. À ces élections, le Congrès a eu un peu moins de 20% des voix, 19,5%. Le BJP a eu un peu plus de 38%, donc en gros, deux fois plus que le Congrès. Mais avec le système électoral indien, uninominal à un tour, il y a une prime au vainqueur absolument considérable qui fait que celui qui a deux fois plus de voix que le suivant remporte plus de 300 sièges, alors que le Congrès n'en a emporté qu'une cinquantaine.
Le Congrès, c'est toujours le parti du Congrès. Hein,
c'est toujours le parti du Congrès. Donc, ça signifie qu'il reste quand même une base qui est sous-estimée par le nombre de sièges, mais en même temps, il est sûr que l'horizon national du parti s'est quand même effrité au fil des dernières décennies. Donc, la vraie question est de savoir, pas simplement... si un nouveau leader pourra émerger, on a entendu des voix dire, vous voyez, à ces élections, une fois encore, le Congrès a bien résisté au Punjab, dont le chef du gouvernement est un ancien militaire. Bon, il a été 3 ans dans l'armée, mais c'est un ancien militaire. Donc certains disent, pourquoi pas lui ? Mais reste que si le BJP est véritablement devenu le parti hégémonique en Inde, la multiplicité des forces politiques... L'enracinement de nombreux partis dans leur territoire régional, dans leur État, fait que il est extrêmement difficile d'imaginer qu'un ou qu'une leader issu du Congrès ou issu d'une autre force, parce que l'hypothèse avait été circulée, si l'opposition gagne, qui serait le ou la première ministre ? Mais tout ça s'est effondré devant le triomphe de Narendra Modi, mais la question reste posée. L'éclatement de l'opposition est un problème crucial, et sans parler de ce qu'est la quasi-disparition de la gauche communiste, qui ne fait que 6 sièges aujourd'hui. Donc, cela ne fait qu'ajouter à la poussée des forces nationalistes hindoues. Donc là, il reste finalement à répondre à la question que vous aviez posée tout à l'heure. Qui sont les électeurs de Modi ? Et je pense que les électeurs de Modi appartiennent à des catégories très différentes. Certains votent par conviction, d'autres votent pour la personne du leader qui est censé assurer la sécurité du pays et la stabilité de la vie politique, mais pas forcément la stabilité de la société indienne, ni la stabilité des institutions, on en a parlé. En tout cas, on est véritablement dans une nouvelle phase, et à mon sens, la question est de savoir, ainsi conforté de façon inédite, quelle va être la politique de Narendra Modi vis-à-vis du noyau dur de son électorat.
Alors, ça fait beaucoup de questions. Effectivement, les institutions, on va les aborder. La question qui se posait de savoir qui était l'électeur type de Narendra Modi, qui était aussi l'électeur type de Rahul Gandhi. Pour avancer un tout petit peu et permettre d'aborder la question des musulmans, est-ce que, alors, le parti du Congrès est un parti qui traditionnellement attirait le vote musulman ? Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui de la façon dont les musulmans ont voté ? Ça nous permet peut-être d'aborder la question de l'élection et le scrutin au Cachemire, Christophe Jaffrelot.
Avant de parler du Cachemire, effectivement, le vote musulman, il existe, il y a un vote musulman. Simplement, c'est un vote qui est maintenant très localisé. Les musulmans essaient, dans chaque circonscription, de soutenir celui qui peut faire barrage au candidat du BJP. Alors parfois, c'est le Congrès, c'est souvent le Congrès, mais parfois, c'est le Samajwadi Party, le Parti Socialiste en Uttar Pradesh, le Bahujan Samaj Party, le parti dirigé par une ex-intouchable, une Dalit, comme on dit sur place, Mayawati, et parfois, ce sont les communistes, notamment encore dans le Sud. Donc ça va être un vote contre, un vote de défense, qui ne permet pas de faire la différence, on l'a vu. Notamment, ça ne permet guère d'avoir des députés musulmans. Mmh. Et pour la deuxième fois consécutive, on se retrouve avec moins de 5% des députés qui sont musulmans. Il y en a 25 sur 542 cette fois-ci. C'est un vrai problème parce que la voix des musulmans est étouffée dans les institutions indiennes. Et j'étais il y a très peu de temps, le mois dernier, à Bhopal, entendant dans Bhopal Nord, qui est un bastion musulman, un ghetto musulman, car en fait, maintenant, on peut dire que vivre dans un quartier mixte pour les musulmans, c'est très difficile. Et on voit la jeunesse musulmane dire « on a souffert pendant 5 ans » lynchage d'éleveurs musulmans accusés d'amener des vaches à l'abattoir, etc., etc. » Il est possible qu'on redresse la tête. Et le feront d'autant plus si ils n'ont pas le sentiment que, dans les instances parlementaires, leur voix est entendue.
Alors, 5% hein, de représentants musulmans au sein de la Chambre indienne, là où la population musulmane, c'est 14% de la population totale, hein, je reprends les chiffres, mais c'est important pour nos éditeurs, c'est 170 millions d'habitants sur le 1,3 milliard d'habitants en Inde. La question qui peut peut-être se poser pour les musulmans aujourd'hui, avec cette représentation qui s'est effilochée, de savoir si un parti politique musulman permettrait de résoudre la quadrature du cercle, je ne sais pas. En tout cas, les musulmans aujourd'hui, musulmans et chrétiens, sont particulièrement inquiets du résultat de l'élection indienne. C'est peut-être ça aussi qu'il est important de souligner, Isabelle Saint-Mézard.
Pour autant que je sache, il est très difficile pour les musulmans de s'organiser en partis politiques à l'échelle nationale. Il y a des petits partis qui arrivent à se faire entendre au Kerala, mais ce qu'on appelle les musulmans indiens, c'est en fait un bloc un petit peu théorique parce qu'ils sont clivés de plein de choses différentes et il leur est très difficile de se mobiliser et de trouver une échelle suffisante, encore une fois, à l'échelle nationale pour peser politiquement. Les chrétiens, quant à eux, c'est 2% de la population indienne, donc ils sont vraiment ultra minoritaires.
Alors, Christophe Jaffrelot, dans votre ouvrage « L'Inde de Modi », vous évoquez le caractère illibéral de la démocratie indienne. Vous parlez de grande démocratie ethnique que vous comparez à la démocratie israélienne.
Oui, d'ailleurs le mot nous vient d'Israël, hein, la formule démocratie ethnique. C'est un politiste israélien, Sami Smoua, qui a défini ainsi le système israélien, disant « oui, il y a des élections ». Oui, il y a une presse relativement libre. Oui, il y a une justice relativement indépendante. Mais tous les citoyens n'ont pas les mêmes droits. Et de fait, Israël est un État juif qui reconnaît à la majorité juive une forme de prééminence. Alors, l'Inde n'est pas...
Un État hindou.
C'est un État sur le papier, dans la Constitution, séculariste et même socialiste, hein, puisque ces deux mots n'ont pas été retirés du préambule de la Constitution. Mais de fait... on voit bien que les minorités n'ont pas les mêmes droits que la majorité hindoue. Et cela se voit d'ailleurs dans les derniers chiffres qui nous restent. Hein, il est de plus en plus difficile d'avoir des données statistiques en Inde. Mais les derniers chiffres, avant que l'omerta ne devienne la règle, en 2015-2016, nous disaient par exemple, quelque chose de très intéressant, vous avez plus de 20% des prisonniers dans les géoles indiennes qui sont des musulmans. Mais une bonne partie d'entre eux ne sont là qu'en raison du biais de la police. Lorsque leur dossier arrive enfin devant les tribunaux, ils sont immédiatement graciés, blanchis. Hein. Voilà un préjugé, pour prendre le mot le plus faible qu'on puisse imaginer, c'est de la discrimination en vérité, hein, qui reflète l'inégalité de droits ou des droits que les minorités doivent affronter. Quantité d'autres exemples pourraient venir à l'esprit. On est maintenant face à une discrimination sur le marché du travail. On a des tas d'exemples de testing, comme on dit. On envoie des milliers de CV avec un nom brahman, un patronyme dalit, ex-intouchable, un patronyme musulman. Et on voit bien, les musulmans viennent en dernier. Et on a une forme de ghettoisation donc spatiale, mais aussi culturelle et sociale. Ça, c'est en un sens un risque que l'Inde prend, mais que pour ce qui est de Narendra Modi, en tout cas du BJP, il prend sans doute en pensant que la polarisation qui en résulte les aidera au plan électoral. Et ça nous ramène à Israël. La campagne électorale de Netanyahou a été faite, la dernière, il y a quelques semaines seulement, sur les mêmes thèmes. La peur de l'autre, le rejet de l'autre. Et Lieberman est en train de demander à ce que l'on déporte les musulmans d'Israël, hors des frontières d'Israël. On est sur des thématiques très comparables.
Alors, pour prolonger cette discussion sur l'Inde, démocratie ethnique, Jean-Luc Racine, est-ce que cette élection de 2019 va marquer un tournant ? Est-ce qu'on peut imaginer l'Inde devenir officiellement un État hindou comme le Pakistan est un État musulman, ce qui voudrait dire, bien sûr, une modification de la Constitution.
Alors, je vais répondre en deux temps. D'abord, moi, j'ai une difficulté avec le concept de démocratie ethnique s'agissant de l'Inde. La comparaison avec Israël peut faire sens, mais enfin, l'ethnicité, c'est l'ethnicité. Et que je sache, l'immense majorité des musulmans en Inde du Nord, par exemple, sont de la même ethnicité que leurs voisins hindous. Donc, cette remarque est en fait sur ce qu'était votre question. Il va être extrêmement difficile de sortir de cette cristallisation. Narendra Modi, dans le premier discours qu'il vient de faire aux députés nouvellement élus de sa coalition, a pris la décision, comme il sait le faire de temps en temps, d'avoir les mots qu'il faut, en disant les élections sont terminées, il faut maintenant que l'harmonie règne dans le pays. Enfin, c'était aussi une façon de répondre à cette couverture de Time Magazine d'il y a deux ou trois semaines, qui présentait Modi en couverture sous le titre « Le grand diviseur de l'Inde ». Donc, au-delà des discours, ça va être un enjeu majeur. Et là encore, il n'est pas du tout sûr que l'opposition fragmentée, au-delà des bastions qui résistent, sera à même de faire avancer les choses. D'autant plus que le parti du Congrès a été accusé de faire ce qu'on appelle dans le jargon indien du « soft hindutva », c'est-à-dire de jouer la carte de l'hindouité, mais pas avec la vigueur du parti du Congrès. On a vu Rahul Gandhi multiplier les visites dans les temples, mais face à ça, quand on voit dans la semaine qui précède le dernier tour des élections, sur Twitter et sur Facebook, Narendra Modi dans des robes safran, dans une grotte de l'Himalaya, en pleine méditation sous les caméras, dans la bataille de l'image, on sait en France ce que veut dire « je préfère l'original à la copie ». Donc il y a un débat intéressant au sein du Parti du Congrès aujourd'hui. Certains disent « on n'a pas assez mis en avant le fait que la majorité d'entre nous, nous sommes des hindous, mais attention, l'hindutva, le nationalisme hindou, c'est une perversion de l'hindouité ». Et puis ceux qui disent « attention, en essayant de faire passer ce genre de message, on dilue ce qu'est notre vocation multiculturelle et multireligieuse ». Donc c'est une question fondamentale dans la reconstruction à venir du Parti du Congrès, mais de l'opposition dans son ensemble. Et c'est une question extrêmement délicate, parce que si on commence à jouer la carte, enfin si on commence, on a commencé, c'est le moins qu'on puisse dire, à jouer la carte de l'appartenance religieuse, plus de 80% d'hindous, c'est un débat de fond sur est-ce que l'hindouisme et le nationalisme hindou, c'est la même chose? La réponse est bien sûr non.
Merci. On arrête là pour cette première émission consacrée à l'Inde. Demain, nous reviendrons sur les aspects économiques, la politique étrangère, les priorités à venir de Narendra Modi. Et je remercie nos invités, Isabelle Saint-Mézard, maître de conférence en géopolitique de l'Asie à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8, également chercheur associé à l'IFRI, Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS, Christophe Jaffrelot, chercheur au CERI Sciences Po CNRS, et Patrick de Jacquelot, ancien correspondant en Inde des Échos et journaliste chez Asialiste. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Yaël Co et Nathalie Laporte. À demain.